应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Nous sommes enfin de retour après quelques vacances et il s'agit maintenant de rattraper notre retard avec aujourd'hui deux films en tout opposés, si ce n'est qu'ils en disent long sur le contraste entre les préoccupations des grands de ce monde et celles des plus défavorisés. Notre toile voyagera donc cette semaine dans le sillage de L'homme aux mille visages d'Alberto Rodriguez. Mais d'abord, nous nous posons à Kinshasa avec Félicité d'Alain Gomis. Quant aux yeux, cette semaine, ce sont ceux d'Alice qui se joignent au mien pour cette première partie. Bonjour Alice.
Bonjour Rémi.
Alors on a à la fois tout et rien dit en affirmant que Félicité est un film lyrique. En effet, si les synopsis résument son scénario à sa trame principale, à savoir l'histoire de Félicité, chanteuse dans un bar, femme forte et ombrageuse, qui doit se procurer une grosse somme d'argent pour payer l'opération dont a besoin son fils après un accident de moto avec l'aide d'un affectueux ivrogne mécanicien. Mais le film est avant tout un collage poétique où les trouées du scénario laissent apparaître une évocation chorale de Kinshasa et de son peuple. Alors avant d'en dire un petit peu plus et de démystifier tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé, Alice ?
Moi, j'ai beaucoup aimé Félicité. J'étais assez... J'étais pas très convaincue par la bande-annonce.
Non, moi
même
non plus.
Pas du tout.
La bande-annonce est vraiment très mauvaise.
Oui, elle rend pas du tout justice au film, qui était en fait pour moi une très bonne surprise. C'était très... C'est assez éprouvant. Bon, déjà, ça dure 2 heures, donc la durée en soi est éprouvante. Mais surtout, il y a une violence assez directe dans les images. Même le côté assez décousu de la narration qui fonctionne de plus en plus par flash et qui est de plus en plus émotive est très, parfois assez dur à suivre. Mais c'est finalement un film lyrique, comme tu l'as dit, et qui repose beaucoup sur des ambiances musicales et un grand onirisme.
Oui, alors je suis d'accord que c'est pas forcément un film d'un accès très facile parce que le film est mine de rien très très froid dans sa forme, dans son montage, dans les images, dans le choix des couleurs, mais aussi dans un montage pas très amène, pas très doux. Il y a quelque chose d'assez rocailleux, d'assez oui, quelque chose de très minéral, on va dire, dans cette dureté de l'esthétique. Mais derrière ça, c'est vrai que chaque plan est une évocation et on a l'impression de sentir battre le pouls de cette ville, de son peuple, autant à travers les scènes très réalistes qu'à travers les scènes complètement oniriques qui s'intercalent à celles-ci et qui finissent par s'y mêler au fur et à mesure qu'on entre dans le film. Et c'est peut-être ça la dynamique qui traverse tout le film et qui va vraiment dans un sens, une dynamique entre réalisme et lyrisme, et on va petit à petit du premier vers le second, j'ai l'impression.
Oui, mais plus que ça, moi je trouve qu'il y a ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est vraiment le côté très binaire. Il y a un principe de structuration binaire, j'ai l'impression. Déjà, le film, donc, finalement, a une première partie où on s'occupe de la narration à proprement parler, de cette femme, Félicité, qui... Donc, il lui arrive l'accident de moto de son fils. Ensuite, elle doit chercher l'argent. Elle parcourt Kinshasa, etc. Et une fois que tous les fils sont démêlés de la narration... C'est l'onirisme qui prend toute la place et tout fonctionne par flash de mémoire, de sensations. De même, il y a tout le temps des contrastes jour-nuit, musique classique, musique traditionnelle ou populaire. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à rentrer dans le film et à m'en souvenir clairement.
Oui, parce que cette, malgré tout, le passage de l'un à l'autre n'est pas instantané, ou en tout cas, il n'est pas vécu comme tel. On se retrouve petit à petit débarrassé de la narration, mais sans que ça se fasse de façon vraiment brutale. Parce qu'au moment où les fils narratifs se dénouent, finalement, on pourrait encore les rattraper. Et non, on les laisse partir et on essaye de tirer un petit peu le côté très, très lyrique, très poétique du film, du propos du film. Et ça, oui, ça se fait petit à petit. Cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même ce que tu dis, cette logique binaire, des scènes très très réalistes avec une image, on a l'impression qu'elle est presque imprégnée du sable qu'il y a partout dans les rues. C'est filmé in situ hein, dans les rues de Kinshasa, etc. Il y a quelque chose de très chaotique aussi avec ces gens partout. Il y a ces scènes, toutes ces scènes dans la rue. On a une scène très très belle avec le jeune homme qui est planté au milieu d'un croisement et où toutes les voitures et les gens circulent autour de lui et la caméra tourne comme ça. Et il y a vraiment une impression de chaos dans toutes ces scènes entre guillemets réalistes. Et à l'inverse, on est plongé dans une incroyable sérénité dans ces scènes très colorées. Avec des couleurs parfois complètement irréalistes. Je pense aux répétitions de cet orchestre symphonique tout bleuté. Et là, il y a vraiment un calme, une sérénité qui nous emporte.
Oui, et puis quand tu disais que donc il n'y a pas de rupture à proprement parler entre réalisme et onirisme, il me semble que c'est dû aussi au fait qu'il y a une sorte de magie qui imprègne un peu tout le film, enfin de plus que de magie, d'esprit un peu de croyance, en tout cas assez vague à définir, mais ne serait-ce que les premières scènes où en fait on ne fait que filmer des clients d'un bar qui ont tous des discussions où d'un coup on a un proverbe très très mystérieux qui est lancé au milieu de la phrase. Donc il y a sans cesse des petits aphorismes, des petits proverbes où la nuit te portera mon fils, ce genre de petites phrases qui en fait ne... soit introduisent de l'onirisme, soit sont au contraire du réalisme total de la sagesse populaire ou, je sais pas, les discussions de comptoir. Et ce qui fait aussi qu'on n'abandonne pas du tout ce fil du début à la fin.
C'est ça aussi qui fait qu'il marche vraiment bien. C'est-à-dire que Gomis, plutôt que de calquer du mysticisme et du réalisme, réussit à trouver ce qu'il y a de mystique dans le réel. Et réussit à trouver comme une espèce de force tellurique qui serait là, qui tiendrait ce réel serré, compact contre lui-même. Et il arrive à trouver une énergie dans le réel qui du coup n'a pas l'air artificielle du tout quand on se retrouve dans des scènes très très oniriques et toutes ces scènes dans la nuit où elle marche dans la forêt qui arrivent comme des petits intermèdes assez brefs à intervalles réguliers dans le film.
Oui, et puis il y a aussi le fait tout simplement que tout est structuré autour de deux personnages, presque trois en comptant le fils de Félicité, mais sinon donc c'est cette sympathique ivrogne mécanicien, comme tu disais, et Félicité qui sont les figures centrales du film. Et elle est très froide, comme le film lui-même, et en même temps on la suit dans ces scènes de nuit complètement oniriques, dans cette sorte de quête de sérénité. Tandis que lui, il commence par tout casser, par tomber d'ivresse, par aller baiser dans un coin. Et il devient cette espèce de personnage attentif à tout, d'une grande finesse et d'une humanité incroyable et d'une grande subtilité, alors que c'est vraiment cet énorme colosse. Et ces deux figures, pour moi, je sais pas, elles m'ont prise. Enfin, c'est ça qui m'a fait oublier la narration dès le début, en fait. Juste être attentif à leurs moindres variations.
Et ces deux figures, leurs rapports sont vraiment très intéressants. En effet, au début, comme tu dis, elle est très très froide, et sauf justement dans les scènes où elle chante, où d'un coup, soudain, il y a une chaleur qui se dégage d'elle, et c'est précisément l'inverse avec ce personnage donc de Tabou, qui est franchement pas très sympathique pendant ces scènes nocturnes où c'est juste un ivrogne un peu désagréable, et où au contraire, la journée, pendant qu'elle est très très froide, lui a toutes ses petites attentions. Et la beauté du film est peut-être justement de réussir à réconcilier ces deux caractères et à les mettre ensemble et autour de la figure du fils qui est finalement ce qui les unit. Alors le fils et le frigo, pour la petite blague qui traverse le film, une blague de frigo en panne qui ne sera jamais réparée. Et ces personnages qui ne vivent pas une histoire tonitruante, qui ne vivent à proprement parler rien, mais qui juste par la présence et les attentions qu'ils ont l'un à l'autre construisent quelque chose de très beau et d'essentiel.
Après, tu dis qu'ils ne vivent pas d'histoire tonitruante, mais j'aimerais juste dire qu'il y a quand même un suspense assez fort dans toute la partie 1, la première partie du film. Qui m'a tenue en haleine vraiment et même toute la salle autour de moi frissonnait. Mais c'est pas du tout un film où il se passe rien. C'est
non, pas du tout.
Un film très rythmé.
Et finalement, je trouve que cette évolution des personnages reprend exactement l'évolution aussi du rythme du film, dans le sens où j'ai l'impression que dans cette première partie beaucoup plus réaliste, on a ces deux personnages qui se battent d'une certaine façon, surtout Félicité qui combat de façon très très âprement contre le monde. Et c'est une fois qu'elle se brise contre le monde, comme la narration se brise avec l'échec de Félicité à soigner son fils à temps. Et c'est au moment où la narration, comme le personnage principal, échoue, qu'ils réussissent à gagner cette espèce de sérénité, à se reconstruire et à se reconstruire à côté de ce personnage de tabou. Comme s'il n'était possible de construire quelque chose de poétique, de profond, qu'une fois arrêtés les combats, une fois la narration, finalement, les événements et le chaos du monde stoppés.
Oui, et il faut aussi parler de la musique, il me semble, qui est...
Oui.
J'ai dit que c'était assez binaire encore sur musique classique, musique populaire que Félicité chante dans les bars de Kinshasa. Il y a aussi un rapport de complémentarité entre ces deux musiques où elles s'infusent l'une et l'autre et surtout... La musique classique est parfois même tournée en dérision, parfois elle apporte au contraire une douceur dans ces longues scènes où on voit Kinshasa, le sable blanc, le chaos, la fatigue de la ville. On entend Arvo Pärt se dégager comme ça en fumée presque. Tandis qu'elle, quand Félicité chante dans les bars de Kinshasa, c'est au contraire hyper incarné, hyper charnel, à tel point que chaque scène, chaque soir où on la voit aller au bar semble être remplie, un précipité de toutes ces humeurs, de toutes ces sensations, de toutes ces humiliations de la journée qu'on voit sortir quand elle chante. Et on pourrait peut-être même suivre les mots du critique de Luma, dont je ne connais pas le nom. Et le montage lui-même est assez musical, assez au sens où il est parfois éclaté, parfois très étiré, et comme un peu une improvisation.
Oui, moi, cette musique, je l'avais déjà vue j'avais déjà entendu les mêmes musiques d'Arvo Pärt, les musiques classiques, dans La Grande Bellezza de Sorrentino.
C'est vrai.
Et on a plusieurs scènes qui sont vraiment extrêmement similaires, je pense, à cette apparition d'un animal à un moment. Et je trouve que le parallèle est assez intéressant, où vraiment, de la même façon, le réalisateur réussit à nous faire traverser une ville au rythme qui est précisément celui de la ville et non plus le nôtre. Et
celui d'une personne.
Celui d'une personne dans la ville. Et les démarches sont, je trouve, assez similaires, en s'adaptant évidemment au contexte, et dans les deux cas, ça marche extrêmement bien. En tout cas, c'était mon avis pour le Sorrentino et pour celui-ci aussi. Eh bien, je crois qu'on est à peu près d'accord. Et du coup, c'est Félicité donc de Alain Gomis qui passe encore en salle pour quelques temps, entre autres chez nos partenaires des Cinémas Lumière. Et maintenant, nous te retrouvons, Aurore. Bonsoir.
Bonsoir.
pour L'homme aux mille visages d'Alberto Rodriguez, film espagnol donc que tu es allé voir. Alors ça parle de quoi ?
Ça parle de l'histoire d'une fuite, celle de Luis Roldán, qui est l'ex-directeur de la Guardia Civil, qui en 1994 trempe dans des affaires louches en Espagne, une affaire de corruption, et qui décide d'essayer de se soustraire à la justice qui va lui tomber sur le nez, et fait appel à Francisco Paesa, qui est véritablement le chef d'orchestre de cette fuite, vers la France, vers le Laos, vers toutes ces zones inconnues où il va déplacer Roldán comme un pion afin de l'aider à ne pas être jugé. Mais tout ça est bien plus compliqué. C'était simplement une histoire de faire fuir quelqu'un, tout se passe bien, il fuit, etc. C'est pas le cas. Et on est vraiment dans une histoire où on pénètre dans les mécanismes politiques, dans toute cette saleté des affaires de corruption, et c'est vraiment bien joué.
Donc il semblerait que tu aies aimé.
Oui, totalement. J'ai été très convaincue par ce film d'Alberto Rodriguez. Je sais que son film précédent, La Isla Mínima, avait fait beaucoup parler de lui dans un bon sens. Je ne l'ai pas vu.
Moi non plus, malheureusement.
Malheureusement, mais celui-là me convainc et m'a fait beaucoup de bien. C'est assez jouissif comme histoire.
Alors c'est assez jouissif, pourquoi jouissif justement ?
Parce qu'on est dans les bottes de Francisco de Paesa, qui est vraiment le maître du jeu, alors que il n'est qu'un sous-fifre au départ. Il est ruiné par des histoires un peu louches dans lesquelles il était quelques années avant cette histoire avec Luis Roldán, totalement ruiné à la solde du gouvernement espagnol pour qu'il travaille en tant qu'agent secret, en tant qu'ambassadeur aussi. Donc il a une immunité qui lui sert beaucoup. Et jouant de cette immunité et des tractations qu'il a avec le gouvernement en place, qui est un gouvernement de gauche à l'époque, il aide Roldán à s'enfuir. Et au fur et à mesure, on sent qu'il domine de plus en plus jusqu'au retournement final où on voit qu'il est réellement le maître du jeu.
Et du coup, il y a un propos politique assez fort sur ce côté où on montre la corruption ou...
Alors, oui, il y a clairement un propos politique dans ce film, parce qu'on nous montre la corruption et parce qu'on voit de la part du réalisateur un regard très critique, très ironique sur cette partie-là de la politique espagnole qui fait encore partie pleinement. Dans l'actualité, il y a bien des politiques qui viennent de se faire sauter la gueule au gouvernement et dans des institutions politiques. Et ce film-là nous permet d'avoir la vision de ces hommes, de comprendre leur fuite, mais on ne prend pas pitié d'eux, même si la caméra voudrait nous le faire ressentir. Alors, est-ce une volonté du réalisateur ? Je ne sais pas. Si vraiment il veut nous faire dire que ce sont des beaux fils de pute, autant le dire clairement, parce qu'il y a quand même des détournements de fonds de plusieurs milliards de pesetas de l'époque.
Mais du coup, oui, tu parles de la caméra, et justement, c'est quoi la position que prend la caméra dans ce film ? Parce que forcément, on imagine, et on le voit à la bande-annonce, une caméra très, très expressive, très, très vive.
Oui, on a une caméra...
Musique aussi, peut-être.
Alors, on est dans un film d'action, on a une caméra qui prend notre regard. Il y a vraiment des plans serrés sur le visage des personnes, aussi bien de Roldán, de Paesa, de Jesús Camoes, qui est le pilote et l'ami de Paesa, de qui émane le récit. Et tout se construit à partir du récit véritable de Jesús Camoes, qui a été l'ami de Paesa et qui a livré à un journaliste son récit. Et le film est adapté de ce récit journalistique. Et cette caméra rend bien compte de ce témoignage, du fait que c'est vraiment un point de vue interne, celui de Jesús Camoes, qui a été très très proche de Paesa. Et on est pris totalement dans l'action. des plans serrés, de la musique vraiment prenante, vraiment haletante. Et on n'en sort pas, on n'en sort qu'à la fin, quand on voit que Paesa, finalement, nous échappe et échappe à Jesús Camoes, qui était son ami, qui d'un seul coup n'a plus de nouvelles de Paesa. Et c'est là qu'il y a une grande distanciation. Et ça nous laisse sur une fin... C'est là qu'on sent vraiment que Paesa domine tout, parce qu'il a tout organisé en laissant même son meilleur ami dans le mensonge qu'il a lui-même construit.
Le portrait est donc assez cruel à la lumière de cette fin, tant vis-à-vis de la politique qu'il est peut-être aussi noir, qui n'est pas porteur d'un espoir fou, j'imagine.
C'est clair. Parce que j'ai commencé en disant que c'était l'histoire d'une fuite, celle de Luis Roldán, et finalement, ça se convertit en celle de Paesa, dans la fuite de Paesa, qui échappe à toute justice jusqu'à prescription de ses crimes en 2004, où là, il a refait surface à Paris. Et on avait perdu toute trace de lui à partir de 1995.
Intéressant. Et donc, tu le recommandes, Aurore ?
Oui, je le recommande chaudement.
Donc, L'homme aux mille visages, je te laisserai dire le titre original.
El hombre de las mil caras.
Voilà, tu fais ça bien mieux que moi. C'est encore en salle pour quelque temps, chers auditeurs.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name. You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Et maintenant, nous retrouvons Pierre, notre sérivore, pour nous parler une fois de plus de séries. Bonsoir à toi, Pierre.
Bonjour Rémi et bonjour à tous nos amis sériphiles. Cette fois-ci, je m'adresse à ceux qui s'intéressent aux Outre-Manchais. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on voyage de l'autre côté de la Manche et on se focalise sur l'humour british sous toutes ses formes. Vous connaissez tous les plus célèbres, à savoir les Monty Python et Mr Bean, bien sûr, mais l'univers télévisuel britannique est plein à craquer de vraies perles. On y trouve de tout, soit-il sous forme de séries ou de shows télévisuels. Alors bon... Oui, c'est un peu une entorse au principe de la série. Mais ça en vaut vraiment la peine, alors ayez un peu de patience avec moi et écoutez cet épisode jusqu'au bout. Une série peut prendre plein de formes. Pas besoin de développer une histoire sur des épisodes dans des saisons. C'est en effet la définition classique à laquelle j'essaye d'adhérer, mais vous verrez que dans l'univers de la TV britannique, on y trouve beaucoup de croisements avec le monde des humoristes et qu'ils déclinent leur travail à la TV sous plein de formes qui ressemblent plus ou moins aux séries. Il y a une vraie vie, toujours en mouvement, au sein de l'humour à la télévision britannique, qui passe autant par les séries que par les séries à sketch, que par les émissions qui ont un découpage dans le même style que les séries. Et il y en a pour absolument tous les goûts, de la critique de la vie de tous les jours, des parodies, du cynisme décapant, de la politique à l'anglaise critiquée par des humoristes anglais, etc. Et j'en passe. C'est tout bonnement délicieux, il faut le dire. Et bon, du coup, le choix est quand même très difficile à faire. Et c'est pour ça que je vous invite à goûter par-ci, par-là, en fonction de vos envies. C'est bien meilleur que la gastronomie britannique, je vous le promets. Alors c'est parti, allons à la découverte du petit aperçu que je vous ai concocté. On commence donc par des grands classiques, bien sûr, les Monty Python, qui, j'espère, je n'ai pas besoin de vous les présenter en plus de détails, que c'est un groupe d'humoristes britanniques qui a fait des séries à sketch à la télévision, sur la BBC notamment, si je ne me trompe pas, dans les années 70. Et on fait plusieurs films, à savoir par exemple La vie de Brian, qui est à mourir de rire, mais on s'intéresse plutôt à leur production télévisuelle sous la forme du Flying Circus, qui est un ensemble de sketchs plus ou moins drôles, avec bien sûr des sketchs éminemment classiques, comme le sketch où quelqu'un rentre pour échanger son perroquet qui est mort. Voilà, donc... où on me souffle à la régie le fameux sketch où on crie « SPA !» Mais aussi le sketch où « Nobody expects the Spanish Inquisition ». Bref, il y a énormément de choses dans tous les sens et c'est quelque chose d'extrêmement déjanté que les Monty Python. C'est pour ça que pour ceux qui n'aiment pas trop l'absurde à ce point, je vous propose « Not the 9 o'clock news » qui est une autre série britannique, donc d'humoristes, un ensemble composé notamment de Rowan Atkinson, qu'on retrouvera plus tard en solo, avec Mr. Bean. Donc, Not the 9 o'clock News reprend le principe des Monty Python, c'est à peu près la même époque, c'est faire plusieurs sketchs qui se suivent, etc. Bien sûr, il y en a des excellents, d'autres un peu moins bons, comme pour toute série de sketchs, mais ils ne sont pas tous aussi connus que les Monty Python, et c'est bien dommage, parce que je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, ça en vaut vraiment le détour. On passe maintenant à une ou deux décennies plus proches de nous, avec A Bit of Fry and Laurie, qui a commencé vers la fin des années 90, si je ne me trompe pas. Bien sûr, là, je vous dis un peu n'importe quoi au niveau des dates, je ne sais pas trop. Mais A Bit of Fry and Laurie, c'est donc un duo d'humoristes, cette fois, et non pas tout un groupe, composé de Hugh Laurie, celui qu'on a pu revoir dans le très célèbre Dr. House, mais aussi Stephen Fry, qui est un autre humoriste britannique extrêmement célèbre, connu aujourd'hui pour différents films et séries. Donc c'est encore une fois une série de sketchs où ils sont tous les deux, et cette fois-ci ça se rapproche beaucoup plus de parodies que de véritables sketchs complets, avec par exemple toute une parodie d'un sitcom soap opéra australien qui est à mourir de rire. Et c'est dans cet univers de télévision qu'on peut retrouver encore une fois avec les Monty Python et Not the 9 o'clock News, ils essayent de parodier la télévision britannique en faisant de fausses émissions assez régulièrement. On retrouve ça avec That Mitchell and Webb Look, qui est encore plus récent, qui date plutôt des années 2000, avec Mitchell et Webb, dont je ne me souviens plus des prénoms, mais qui sont un duo d'humoristes à mourir de rire, qui font encore une fois une forme de série sous forme de sketch, où ils font des espèces de fausses interviews, etc. Alors pourquoi j'ai terminé sur ces deux-là ? C'est parce que je veux poursuivre sur maintenant le véritable série. Et là, on va passer dans des séries relativement intéressantes, à savoir Peep Show par exemple. Peep Show est donc une série qui est faite par Mitchell and Webb et bien sûr quelques-uns de leurs partenaires, de leurs amis. Et cette série a la particularité en fait d'être uniquement à la vue première personne. C'est donc toute une série composée d'une vue subjective où on suit l'histoire de deux colocataires, plus colocataire Camille, joué bien sûr par Mitchell et Webb, et leur cercle d'amis proches qui est relativement étrange, on va dire. Et donc c'est une forme de parodie de la vie londonienne pour des personnes qui ont la trentaine au début des années 2000. C'est très intéressant parce que c'est assez déstabilisant de voir seulement de la vue subjective qui passe d'un personnage à l'autre pour faire les discussions, etc., pour avoir les différents points de vue. Ça reste très intéressant parce que du coup, on a les pensées des personnages qui permettent de développer une nouvelle couche d'humour où en fait, on se rend compte que les personnages, des fois, sont juste cons. Voilà, donc ça, c'est Peep Show que je vous invite à essayer. Personnellement, j'ai pas trop accroché. Faut quand même vraiment s'accrocher pour comprendre comment ça marche, la vue subjective, etc. Mais ça reste assez amusant. On revient en arrière, cette fois, pour des choses plus classiques, plus anciennes, avec Yes Prime Minister ou Yes Minister, qui sont une suite de séries, on va dire, composée de trois saisons, qui suivent les démenés d'un ministre britannique entouré de son secrétaire et de ses fidèles amis et alliés, bien sûr. Et bien sûr, ça tourne en dérision la politique britannique, et ça a ce sens de l'humour très britannique, très sec, qui va vous décrire les choses d'un point de vue très snob, ce qui permet de remettre les choses en perspective, à savoir par exemple l'Union européenne et leurs différentes directives concernant les saucisses britanniques, dont tout un épisode est consacré à ce sujet-là. C'est très amusant, ça vaut le détour, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc je vous le recommande si vous voulez exercer votre anglais et comprendre un peu l'humour britannique concernant la politique. On enchaîne directement sur quelque chose d'un peu plus ancien, mais qui s'est étalé sur plusieurs séries, à savoir Blackadder, qui est une série, extrêmement drôle, que j'ai regardé beaucoup de fois et que je vous recommande vivement. En fait, ça raconte l'histoire de Rowan Atkinson, qui joue ce fameux personnage de Blackadder, qui est en fait un personnage qui n'a qu'une volonté dans la vie, c'est d'atteindre le pouvoir, sachant que c'est le fils d'un noble, ou alors c'est le valet du prince du Pays de Galles. Ça dépend justement des différentes saisons, et les quatre saisons ont la particularité de se faire autour de quatre périodes historiques. La première se passe au Moyen-Âge, avec l'archevêque de Canterbury, par exemple, à un moment où le personnage principal de Blackadder doit devenir archevêque de Canterbury après l'avoir tué, donc ça donne des moments assez rocambolesques. La deuxième saison, elle, se passe à l'époque élisabéthaine, l'époque de Shakespeare, etc., donc ça donne un autre point de vue, un peu plus amusant, c'est mieux construit, on on sent vraiment que la série se met en place. La troisième saison, elle, se déroule à l'époque de la Régence, donc autour des guerres napoléoniennes, etc. Et c'est donc là que Blackadder joue le valet totalement cynique du prince de Galles, qui est lui, par contre, totalement débile et campé par Hugh Laurie. Donc ça fait un duo qui marche extrêmement bien, avec le personnage de Baldric, qui est interprété par un acteur dont j'ai oublié le nom et mal m'en prend parce que c'est un excellent acteur. Avec ils vont donc créer tous les trois une véritable dynamique tout au long des saisons, jusqu'à arriver à la dernière saison, saison 4, qui elle se passe dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Et oui, c'est possible de faire quelque chose à mourir de rire concernant les tranchées, mais bien sûr, c'est avec cet humour si britannique, si cynique, qui va se plaindre à moitié des conditions de vie, tout en se disant, en fait, et si on n'était pas meilleur ? Et bien sûr, ces personnages ne sont pas meilleurs que ça. Donc Blackadder, c'est vraiment une série qui se découpe en 4 saisons, qui ont tout un arc narratif très intéressant, qui on retrouve tout au long de ces 4 saisons. Et bien sûr, Rowan Atkinson est incroyable dans ce rôle-là. C'est pourquoi je vous invite à aller la regarder immédiatement, sachant qu'il existe aussi 3 épisodes spéciaux pour 3 autres périodes, dont une où c'est... Les chers auditeurs de Transistor se rappelleront alors une certaine mini-série qui a été faite en début d'année. C'est en effet tout un épisode spécial où Blackadder habite au 21e siècle et fabrique une machine à voyager dans le temps et remonte dans le temps à la recherche de ses ancêtres. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je peux encore vous parler de beaucoup d'autres choses britanniques, évidemment, à savoir par exemple QI, qui est une émission de... qui est en fait une émission sous forme de quiz avec des invités du monde humoristique, justement, des célébrités humoristiques qui doivent répondre à des questions de culture générale, etc., selon des thèmes. Et pourquoi j'inclus cette émission, pourquoi j'aurais pu inclure cette émission dans cette chronique ? Eh bien, c'est parce qu'elle se découpe sous forme de saison composée de différentes lettres, en fait. Ce n'est pas la saison 1, la saison 2, la saison 3, mais la saison A, B, C, D, etc. Et chaque épisode va donc concerner un sujet qui commence par cette lettre. Voilà, par exemple, pendant la saison K, on a un épisode sur les Kings, voilà, tout simplement. Donc ça suit une forme de série, et bien sûr, c'est Stephen Fry qui a lancé cette émission et qui la gère avec brio depuis quelques années, bien qu'il ait été remplacé il y a 2 ans. Donc je vous recommande de vous pencher sur ce que la BBC a pu produire, pas seulement les grands classiques que l'on connaît tous, même si je vous invite à les re-regarder dans votre temps libre, parce que ça vaut toujours la peine de bien se marrer et d'avoir un point de vue externe sur ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, un point de vue humoristique et ironique, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est pour ça que je vous dis, allez découvrir ce qu'il se passe de l'autre côté de la Manche.
Voilà, D'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Alice Bocara, Aurore Cesportes, Rémi Cerda, et pour les séries, Pierre Lemoyle. Nous vous retrouvons la semaine prochaine ici même. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos anciennes émissions et à commenter celle-ci sur la page de D'étoiles plein les yeux sur transistor.fr. Et bonne semaine à tous dans les salles obscures.